Thé et tête ou de la science. Partie 7.
Socrate. Mais la même chose arrive-t-elle dans d'autres cas ?
Thé et tête.
Quoi donc ?
Socrate.
Arrive-t-il qu'on voit quelque chose et que ce qu'on voit ne soit rien ?
Thé et tête.
Et comment cela se pourrait-il ?
Socrate.
Lorsqu'on voit une chose, on voit quelque chose qui est. Crois-tu qu'une chose puisse ne pas être ?
Thé et tête. Nullement.
Socrate. Celui donc qui voit une chose voit quelque chose qui est.
Thé et tête.
Et il me semble.
Socrate.
Et celui qui entend quelque chose entend une chose et par conséquent une chose qui est.
Thé et tête.
Oui.
Socrate.
Et celui qui touche touche une chose et une chose qui est, puisqu'elle est une chose.
Thé et tête.
Sans aucun doute.
Socrate.
Or, celui qui juge, ne juge-t-il pas une chose ?
Thé et tête.
Ah, nécessairement.
Socrate.
Et celui qui juge une chose, ne juge-t-il pas quelque chose qui est ?
Thé et tête.
Je l'accorde.
Socrate.
Donc, celui qui juge ce qui n'est pas, ne juge rien.
Thé et tête.
Comment le nier ?
Socrate.
Mais celui qui ne juge rien ne juge point du tout.
Thé et tête.
Cela semble évident.
Socrate.
Il n'est donc pas possible de juger ce qui n'est pas, ni sur des objets réels, ni sur des êtres abstraits.
Thé et tête.
Il paraît que non.
Socrate.
Juger faux est donc autre chose que juger ce qui n'est pas.
Thé et tête.
Apparemment,
Socrate.
Ce n'est donc ni de cette manière, ni de celle que nous avions exposée un peu auparavant, que le faux jugement se forme en nous.
Thé et tête.
Non,
Socrate.
Mais vois si nous appellerons juger faux l'opération suivante.
Thé et tête.
Laquelle ?
Socrate.
Nous disons qu'un faux jugement est une méprise. Lorsque, prenant dans sa pensée un objet réel pour un autre objet réel, on affirme que tel objet est tel autre.
De cette façon,
on juge toujours ce qui est, mais l'un pour l'autre. Et comme on manque la chose que l'on considère, on peut dire avec raison que l'on juge faux.
Thé et tête.
Cela me paraît très bien dit, car lorsqu'on juge une chose laide pour une belle, ou une belle pour une laide, c'est alors qu'on juge véritablement faux.
Socrate.
On voit bien, thé et tête, que tu n'as pas grande estime pour moi, et que tu ne me crains guère.
Thé et tête.
Pourquoi donc ?
Socrate.
C'est qu'en vérité, tu n'as pas l'air de croire que je relèverais cette expression « véritablement faux » en te demandant s'il est possible que ce qui est vite se fasse lentement, ce qui est léger pesamment, et tout autre contraire, non selon sa nature, mais selon celle de son contraire, et en opposition avec soi-même. Mais je laisse cette objection, afin que la confiance que tu montres ne soit pas déçue. Est-ce bien ton avis, comme tu le dis, que juger faux soit prendre une chose pour une autre ?
Thé et tête.
Oui,
Socrate.
On peut donc, selon toi, se représenter dans la pensée un objet comme étant autre que ce qu'il est, et non tel qu'il est.
Thé et tête.
On le peut.
Socrate.
Et quand la pensée fait cela, n'est-ce pas une nécessité qu'elle ait présent l'un et l'autre objet, ou l'un des deux ?
Thé et tête.
Sans contredit.
Socrate.
Ou ensemble, ou l'un après l'autre.
Thé et tête.
Fort bien.
Socrate.
Et par pensée, entends-tu la même chose que moi ?
Thé et tête.
Qu'entends-tu par là ?
Socrate.
Un discours que l'âme s'adresse à elle-même sur les objets qu'elle considère. Prends-moi pour un homme qui ne sait pas très bien ce dont il parle. C'est peut-être une illusion, mais il me paraît que l'âme, quand elle pense, ne fait autre chose que s'entretenir avec elle-même, interrogeant et répondant, affirmant et niant. Et que, quand elle se décide, que cette décision se fasse plus ou moins promptement, quand elle sort du doute et qu'elle prononce, c'est cela que nous appelons juger. Ainsi, juger, selon moi, c'est parler. Et le jugement est un discours prononcé non à un autre, ni de vive voix, mais en silence et à soi-même. Qu'en dis-tu ?
Tête. Ah, je suis tout à fait de ton avis.
Socrate. Juger qu'une chose est une autre, c'est donc se dire à soi-même, ce me semble, que telle chose est telle autre.
Tête.
Eh bien, Socrate, rappelle-toi, si jamais tu t'es dit à toi-même que le beau est laid ou l'injuste juste. En un mot, vois si jamais tu as entrepris de te persuader qu'une chose est une autre. Ou si, tout au contraire, il est vrai que tu ne t'es jamais avisé, même en dormant, de te dire que, certainement, l'impair est pair, ou toute autre chose semblable.
Tête. Non, jamais.
Socrate. Et penses-tu que quelque autre homme, qu'il fût en son bon sens, ou qu'il eût l'esprit aliéné, est tenté de se dire sérieusement à lui-même et de se prouver que, de toute nécessité, un cheval est un bœuf, ou que deux sont un?
Tête. Assurément, non.
Socrate. Si donc juger, c'est se parler à soi-même. Nul homme se parlant et jugeant sur deux objets, et les embrassant tous deux par la pensée, ne dira, ni ne jugera, que l'un soit l'autre. Et il te faut laisser cette théorie de la méprise, car je ne crains pas de dire que personne ne jugera que le lait est beau, ni rien de semblable.
Tête.
Je laisse aussi cette théorie, Socrate, et je me range à ton opinion.
Socrate.
Ainsi, il est impossible qu'en jugeant sur deux objets, on juge que l'un soit l'autre.
Tête. Il me semble.
Socrate. Mais si le jugement ne tombe que sur l'un des deux et point du tout sur l'autre, on ne jugera jamais que l'un soit l'autre.
Tête.
Tu dis vrai, car il faudrait en ce cas qu'on atteignît par la pensée l'objet même que l'on ne jugerait pas.
Socrate.
Il est donc impossible qu'on juge qu'une chose est une autre, ni lorsqu'on juge toutes les deux, ni seulement l'une des deux. Ainsi, définir le jugement faux, le jugement d'une chose pour une autre, c'est ne rien dire, car il ne paraît pas que ce soit ni par cette voie, ni par les précédentes, que nous puissions juger faux.
Tête.
Non, vraiment.
Socrate.
Cependant, Tête, si nous ne reconnaissons pas que le jugement faux a lieu, nous serons contraints d'admettre une foule d'absurdités.
Tête.
Quelles absurdités ?
Socrate.
Je ne te les dirai point, que je n'ai essayé de considérer la chose par toutes ses faces. Car j'aurais honte pour toi et pour moi si, dans l'embarras où nous sommes, nous étions réduits à admettre ce que je veux dire. Mais si nous venons heureusement à bout de nos recherches et que nous soyons hors de tout danger, alors, n'ayant plus de ridicule à craindre pour nous, j'en parlerai comme d'un embarras auquel d'autres sont exposés. Si, au contraire, nos difficultés ne s'éclaircissent point, il faudra bien que nous nous mettions, je pense, dans une humble posture à la merci du discours, pour être foulé aux pieds et en passer par tout ce qui lui plaira, dans l'état de ceux qui souffrent du mal de mer. Écoute donc, quel moyen je trouve encore pour nous tirer de ce mauvais pas ?
Tête.
Tu n'as qu'à parler.
Socrate.
Je dirais que nous n'avons pas très bien fait d'accorder qu'il est impossible de penser que ce qu'on sait est la même chose que ce qu'on ne sait pas et que se tromper. Mais je soutiens qu'à certains égards, cela peut être.
Tête.
Aurais-tu en vue ce que j'ai soupçonné dans le temps que nous faisions cet aveu, savoir que, quelquefois, connaissant Socrate, et voyant de loin une autre personne que je ne connais pas, je l'ai prise pour Socrate que je connais.
Il arrive alors ce que tu viens de dire.
Socrate. N'avons-nous pas renoncé à cette idée parce qu'il en résultait que ce que nous savons, nous le savions et ne le savions pas tout à la fois.
Tête.
Oui.
Socrate.
Ne parlons donc plus ainsi, mais de la manière suivante, et peut-être que tout nous réussira. Peut-être aussi nous trouverons encore des obstacles. Mais nous sommes dans une situation critique, où c'est une nécessité pour nous d'examiner les objets de tous les côtés pour arriver à la vérité. Vois donc, si ce que je dis est solide, peut-il se faire que ne sachant pas une chose auparavant, on l'apprenne dans la suite?
Tête.
Sans doute,
Socrate.
Puis une seconde chose, puis une troisième.
Tête.
Pourquoi non?
Socrate.
Suppose avec moi, pour causer, qu'il y a dans nos âmes des tablettes de cire, plus grandes en celui-ci, plus petites en celui-là, d'une cire plus pure dans l'un, dans l'autre moins, trop dure, ou trop molle en quelques-uns, en d'autres tenant un juste milieu.
Tête. Je le suppose.
Socrate. Disons que ces tablettes sont un présent de Mnémosyne, mère des muses, et que tout ce dont nous voulons nous souvenir, entre toutes les choses que nous avons ou vues, ou entendues, ou pensées de nous-mêmes, nous l'y imprimons comme avec un cachet, tenant toujours ces tablettes prêtes pour recevoir nos sensations et nos réflexions, que nous nous rappelons et savons tout ce qui a été emprunt tant que l'image en subsiste, et que lorsqu'elle est effacée, ou qu'il n'a pas été possible qu'elle s'y gravât, nous l'oublions et nous ne le savons pas.
Tête.
Soit.
Socrate.
Quand donc l'on voit ou l'on entend des choses que l'on connaît, et que l'on en considère quelqu'une, vois si c'est ainsi qu'on peut juger faux.
Tête.
De quelle manière?
Socrate.
En s'imaginant que ce qu'on sait est tantôt ce qu'on sait, tantôt ce qu'on ne sait pas. Car nous avons eu tort d'accorder précédemment que cela est impossible.
Tête.
Mais comment l'entends-tu à présent?
Socrate.
Voici ce qu'il faut dire à ce sujet, en reprenant la chose dès le commencement. Il est impossible que ce qu'on sait, dont on conserve l'empreinte en son âme, et qu'on ne sent pas actuellement, on s'imagine que c'est quelque autre chose que l'on sait, dont on a pareillement l'empreinte, et que l'on ne sent pas. Et encore, que ce qu'on sait est autre chose qu'on ne sait pas et dont on n'a point l'empreinte. Et encore, que ce qu'on ne sait pas est autre chose qu'on ne sait pas non plus. Et ce qu'on ne sait pas, autre chose que l'on sait. Et ce que l'on sent, autre chose que l'on sent aussi. Et ce qu'on sent, autre chose qu'on ne sent pas. Et ce qu'on ne sent pas, autre chose qu'on ne sent pas davantage. Et ce qu'on ne sent pas, autre chose que l'on sent. Il est encore plus impossible, si cela se peut, que ce qu'on sait et que l'on sent et dont on a l'empreinte par la sensation, on se figure que c'est quelque autre chose qu'on sait et qu'on sent aussi, et dont on a pareillement l'empreinte par la sensation. Il est également impossible que ce qu'on sait, ce qu'on sent, et dont on conserve une image gravée dans la mémoire, on s'imagine que c'est quelque autre chose que l'on sait, Et encore, que ce qu'on sait, ce qu'on sent et dont on garde le souvenir est autre chose que l'on sent, et que ce qu'on ne sait ni ne sent est autre chose qu'on ne sait ni ne sent pareillement, et ce qu'on ne sait ni ne sent, autre chose qu'on ne sait point, et ce qu'on ne sait ni ne sent, autre chose qu'on ne sent point. Il est de toute impossibilité qu'en tous ces cas, on juge faux. Reste donc, si le jugement faux a lieu quelque part, que ce soit dans les cas suivants.
Tête. Dans quel cas?
Peut-être comprendrai-je mieux par là ce que tu dis, car pour le présent je ne te suis guère.
Socrate.
Par rapport à ce qu'on sait. Lorsqu'on s'imagine que c'est quelque autre chose que l'on sait et que l'on sent, ou que l'on ne sait pas, mais qu'on sent, ou par rapport à ce que l'on sait et que l'on sent, lorsqu'on le prend pour une chose que l'on sait et qu'on sent de même.
Tête.
Je suis encore plus éloigné de te comprendre qu'auparavant.
Socrate.
Écoute donc la même chose d'une autre façon. N'est-il pas vrai que, connaissant Théodore, et ayant en moi le souvenir de sa figure, et connaissant de même Théétète, quelquefois je les vois, quelquefois je ne les vois pas. Tantôt je les touche, tantôt je ne les touche pas. Je les entends, et j'ai quelque autre sensation à leur occasion. Ou bien, je n'en ai absolument aucune, mais je ne me souviens pas moins d'eux, et je les connais en moi-même.
Théétète,
j'en conviens.
Socrate.
De tout ce que je veux t'expliquer, saisis d'abord ceci, qu'il est possible qu'on ne sente point ce qu'on sait, et aussi qu'on le sente.
Théétète.
Cela est vrai.
Socrate.
N'arrive-t-il pas aussi, à l'égard de ce qu'on ne sait point, que souvent on ne le sent pas, et que souvent on le sent et rien de plus?
Théétète. Cela est encore vrai.
Socrate. Présentement, vois s'il te sera plus aisé de me suivre. Socrate connaît Théodore et Théétète, mais il ne voit ni l'un ni l'autre, et n'a aucune autre sensation à leur sujet. En ce cas, jamais il ne formera en lui-même ce jugement que Théétète est Théodore. Ai-je raison ou tort?
Théétète.
Tu as raison,
Socrate.
Tel est le premier des cas dont j'ai parlé.
Théétète.
En effet, c'est le premier.
Socrate.
Le second est que, connaissant l'un de vous deux, et ne connaissant pas l'autre, et ne sentant ni l'un ni l'autre, je ne me figurerai jamais que celui que je connais est l'autre que je ne connais pas.
Théétète.
Fort bien.
Socrate.
Le troisième, que, ne connaissant et ne sentant ni l'un ni l'autre, je ne penserai jamais que l'un qui ne m'est pas connu est l'autre que je ne connais pas davantage.
En un mot,
figure-toi entendre de nouveau successivement tous les cas que j'ai d'abord posés, dans lesquels je ne porterai jamais de jugement faux sur toi ni sur Théodore. Soit que je vous connaisse, ou ne vous connaisse pas tous deux, soit que je connaisse l'un et non pas l'autre. C'est la même chose à l'égard des sensations, si tu comprends bien.
Théétète.
Oui.
Socrate.
Il reste par conséquent de juger faux dans le cas où vous connaissant toi et Théodore, et ayant vos signalements emprunts comme avec un cachet sur ces tablettes de cire, vous apercevant tous deux de loin sans vous distinguer suffisamment, je m'efforce d'appliquer le signalement de l'un et de l'autre à la vision qui lui est propre, adaptant et ajustant cette vision sur les traces qu'elle m'a laissées d'elle-même, afin que la reconnaissance se fasse, et lorsqu'ensuite me trompant et prenant l'un pour l'autre, comme ceux qui mettent la chaussure d'un pied à l'autre pied, j'applique la vision de l'un et de l'autre au signalement qui lui est étranger, ou j'éprouve la même chose que quand on regarde dans un miroir, la vision passe de droite à gauche, et je tombe ainsi dans l'erreur. C'est alors qu'il arrive qu'on prend une chose pour une autre, et qu'on porte un jugement faux. Cette comparaison, Socrate, est une peinture admirable du jugement. Socrate. Et encore, lorsque, vous connaissant tous deux, j'ai outre cela la sensation de l'un et non de l'autre, et que la connaissance que j'ai de cet autre n'est point due à la sensation. Ce que je voulais dire précédemment est que tu n'as pas saisi alors. Théétète. Non, vraiment. Socrate. Je disais donc que si on connaît une personne, si on la sent, et si on en a une connaissance distincte par la sensation, jamais on ne s'imaginera que c'est une autre personne que l'on connaît, que l'on sent, et dont on a pareillement une connaissance distincte par la sensation. N'est-ce pas ce que je disais ? Théétète. Oui, Socrate. Restait le cas dont je parle maintenant, où nous disons que le jugement faux a lieu lorsque connaissant ces deux personnes et voyant l'une et l'autre, ou ayant quelque autre sensation de toutes les deux, je ne rapporte pas l'image de chacune à la sensation que j'ai d'elle, et que, semblable à un archer maladroit, je tire à côté du but et je le manque. Ce qu'on appelle errer. Théétète. Et avec raison. Socrate. Et par conséquent, lorsque l'un des signes emprunts dans l'esprit a une sensation qui lui correspond et que l'autre n'en a pas, et qu'on applique à la sensation présente le signe qui appartient à la sensation absente, alors l'entendement erre entièrement. En un mot, si ce que nous disons ici est raisonnable, il ne paraît pas qu'on puisse errer ni porter un jugement faux sur ce qu'on n'a jamais ni connu ni senti. Et le jugement, soit faux, soit vrai, tourne et roule, en quelque sorte, dans les limites de la connaissance et de la sensation. Vrai, lorsqu'il applique et imprime à chaque objet directement les marques qui lui sont propres. Faux, lorsqu'il les applique de côté et obliquement. Théétète. Cela est-il bien certain, Socrate ? Socrate. Tu en conviendras encore davantage, après avoir entendu ce qui suit, car il est beau de juger vrai, et honteux de juger faux. Théétète. Sans doute, Socrate. Voici, dit-on, quelle en est la cause. Quand la cire qu'on a dans l'âme est profonde, en grande quantité, bien unie et bien préparée, les objets qui entrent par les sens et se gravent dans ce cœur de l'âme, comme l'a appelé Homère, désignant ainsi d'une manière cachée sa ressemblance avec la cire, y laissent des traces distinctes, d'une profondeur suffisante, et qui se conservent longtemps. Et alors, on a l'avantage en premier lieu d'apprendre aisément, ensuite de retenir ce qu'on a appris, enfin de ne pas confondre les signes des sensations et de porter des jugements vrais. Car comme ces signes sont nets et placés dans un lieu spacieux, on les rapporte promptement chacun à son cachet, c'est-à-dire aux objets réels. Et voilà ce qu'on appelle sagesse. N'es-tu pas de cet avis ? Théétète. Très fort. Socrate. Mais ce cœur est-il couvert de poils ? Ce que le très sage Homère a vanté, ou la cire est-elle impure, ou trop molle, ou trop dure ? Ceux chez qui elle est trop molle apprennent facilement et oublient d'eux-mêmes. C'est le contraire pour ceux chez qui elle est trop dure. Et quant à ceux dont la cire est couverte de poils, raboteuse et pierreuse en quelque sorte, ou mêlée de terre et d'ordures, l'empreinte des objets n'est pas nette chez eux. Elle ne l'est pas non plus dans ceux dont la cire est trop dure, parce qu'il n'y a point de profondeur. Ni dans ceux qui l'ont trop molle, parce que les traces, en se confondant, deviennent bientôt obscures. Elles sont bien moins nettes encore quand, outre cela, on a le cœur petit, et que la place étant étroite, les empreintes tombent les unes sur les autres. Tous ces gens-là sont donc dans le cas de juger faux, car lorsqu'ils voient qu'ils entendent ou qu'ils imaginent quelque chose, ne pouvant rapporter sur le champ chaque objet à son empreinte, ils sont lents, ils attribuent à un objet ce qui convient à l'autre. Et pour l'ordinaire, ils voient, ils entendent, ils conçoivent de travers. Et voilà ce qu'on appelle erreur et ignorance. Théétète. Ah, il n'est pas possible de mieux parler, Socrate. Socrate. Eh bien, dirons-nous qu'il y a en nous des jugements faux? Théétète. Assurément. Socrate. Et des jugements vrais? Théétète. Oui. Socrate. Regardons-nous maintenant comme un point suffisamment décidé que ces deux sortes de jugements ont réellement lieu? Théétète. Oui, et très bien décidé. Socrate. En vérité, Théétète, il faut convenir qu'un babillard est un être bien importun et bien fâcheux. Théétète. Quoi donc? À quel propos dis-tu cela? Socrate. Parce que je suis de mauvaise humeur contre mon peu d'intelligence et, à dire vrai, contre mon babil. Car de quel autre terme se servir lorsqu'un homme a la sottise de tirer la conversation en haut, en bas, sans pouvoir s'arrêter à rien et ne quittant chaque propos qu'avec une extrême difficulté? Théétète. Qu'est-ce donc qui peut te donner cette mauvaise humeur? Socrate. Non seulement je suis de mauvaise humeur, mais je crains de ne savoir que répondre si quelqu'un me demande « Socrate, tu as donc trouvé que le faux jugement ne se rencontre ni dans les sensations comparées entre elles, ni dans les pensées, mais dans le concours de la sensation avec la pensée ?» Je lui dirai « Oui, ce me semble », m'applaudissant de cela comme d'une belle découverte. Théétète. Pour moi, Socrate, il me paraît que la démonstration que nous venons de faire n'est pas mauvaise. Socrate. Ainsi, tu dis, reprendra-t-il, que connaissant un homme par la pensée seulement et ne le voyant pas, il est impossible qu'on le prenne pour un cheval qu'on ne voit point, qu'on ne touche point, qu'on ne connaît par aucune autre sensation, mais uniquement par la pensée. Je lui répondrai, je pense, que cela est vrai. Théétète. Et avec raison, Socrate. Mais, poursuivra-t-il, ne suit-il pas de là qu'on ne prendra jamais le nombre 11, qu'on ne connaît que par la pensée, pour le nombre 12, qui n'est pareillement connu que par la pensée? Allons, réponds à cela, Théétète. Théétète. Je répondrai qu'à l'égard des nombres qu'on voit ou qu'on touche, on peut prendre 11 pour 12, mais qu'on ne portera jamais ce jugement au sujet des nombres qui n'existent que dans la pensée. Socrate. Quoi donc? Crois-tu qu'on ne s'est jamais proposé d'examiner en soi-même 5 et 7? Je ne dis pas 5 hommes et 7 hommes, ni rien de semblable. Mais les nombres 5 et 7 eux-mêmes, qui sont gravés comme un monument sur ces tablettes de cire dont nous parlions. Et crois-tu qu'il est impossible qu'on juge faux à leur sujet? N'est-il pas arrivé que, réfléchissant sur ces deux nombres, se parlant à soi-même, et se demandant combien ils font, l'un a répondu qu'ils font 11, et l'a cru ainsi, l'autre qu'ils font 12? Ou bien tout le monde, dit-il, et pense-t-il qu'ils font 12? Théétète. Non, certes, Plusieurs croient qu'ils font 11. Et l'on se trompera bien davantage encore si l'on examine un nombre plus considérable, car je m'imagine que tu parles ici de toute espèce de nombre.
Socrate.
Tu devines juste, et vois si dans ce cas, ce n'est pas le nombre abstrait de 12 que l'on prend pour 11.
Tête.
Ah, il y a toute apparence.
Socrate.
Mais ne rentrons-nous pas dans ce que nous disions auparavant? Car celui qui est dans ce cas s'imagine que ce qu'il connaît est autre chose qu'il connaît aussi. Ce que nous avons jugé impossible, et d'où nous avons conclu comme nécessaire qu'il n'y a point de jugement faux, pour n'être pas réduit à accorder que le même homme sait et ne sait pas en même temps la même chose.
Tête.
En effet.
Socrate.
Ainsi, il faut dire que le jugement faux est autre chose qu'une méprise dans le concours de la pensée et de la sensation. Car, si c'était cela, jamais on ne se tromperait, lorsqu'il ne serait question que de penser. C'est pourquoi, où il n'y a point de jugement faux, où il se peut faire qu'on ne sache point ce que l'on sait. De ces deux parties, lequel choisis-tu?
Tête.
Tu me proposes un choix embarrassant, Socrate.
Socrate.
Il ne paraît pourtant point que l'on puisse laisser subsister ces deux choses ensemble. Mais puisque nous sommes en train de tout oser, si nous nous déterminions à mettre bas toute pudeur.
Tête.
Comment?
Socrate.
En entreprenant d'expliquer ce que c'est que savoir.
Tête.
Quelle imprudence y aurait-il à cela?
Socrate.
Il me paraît que tu ne fais pas réflexion que toute notre dispute depuis le commencement a pour objet la recherche de la science comme d'une chose qui nous est inconnue.
Tête.
J'y fais réflexion, vraiment.
Socrate.
Et tu ne trouves pas qu'il y a de l'impudence à expliquer ce que c'est que savoir lorsqu'on ne connaît point la science?
Mais, Tête,
depuis longtemps, notre discussion est toute remplie de défauts. Nous avons employé une infinité de fois ces expressions « nous connaissons », « nous ne connaissons pas », « nous savons », « nous ne savons pas ». Comme si nous nous comprenions de part et d'autre, tandis que nous ignorons encore ce que c'est que la science. Et pour t'en donner une nouvelle preuve, à ce moment même, nous nous servons de ces mots « ignorer », « comprendre », comme s'il nous était permis de nous en servir, privés que nous sommes de la science.
Tête.
Comment donc converseras-tu, Socrate, si tu n'emploies aucune de ces expressions?
Socrate.
D'aucune manière, il est vrai, tant que je serai ce que je suis. Il est certain du moins que si j'étais un disputeur, ou qu'il se trouvât ici, un homme de ce genre, il nous ordonnerait de nous en abstenir et nous tenserait vivement sur les mots dont je me sers. Mais puisque nous sommes de pauvres discoureurs, veux-tu que je m'enhardisse à t'expliquer ce que c'est que savoir? Aussi bien, je pense que cela nous avancera de quelque chose.
Tête.
Ose donc, par Jupiter, on te fera grâce aisément des expressions que tu emploieras.
Socrate.
As-tu entendu comment on définit aujourd'hui le savoir?
Tête.
Peut-être, mais je ne m'en souviens pas pour le moment.
Socrate.
On dit que savoir, c'est avoir de la science.
Tête.
Cela est vrai.
Socrate.
Pour nous, faisons un léger changement à cette définition et disons que c'est posséder la science.
Tête.
Quelle différence mets-tu entre l'un et l'autre?
Socrate.
Peut-être n'y en a-t-il aucune. Écoute pourtant, et pèse avec moi celle que je crois y voir.
Théétète.
Oui, si j'en suis capable.
Socrate.
Il ne me paraît pas que posséder soit la même chose qu'avoir. Par exemple, si quelqu'un, ayant acheté un habit et en étant le maître, ne le porte point, nous ne dirons pas qu'il l'a, mais seulement qu'il le possède.
Théétète. Et avec raison.
Socrate. Vois donc, par rapport à la science, s'il est possible qu'on la possède sans l'avoir, comme si, ayant pris à la chasse des oiseaux sauvages, des ramiers ou quelque autre espèce semblable, on les élevait dans un colombier qu'on aurait chez soi. En effet, nous dirions à certains égards qu'on a toujours ses ramiers parce qu'on en est possesseur, n'est-ce pas?
Théétète.
Oui.
Socrate.
Et à d'autres égards qu'on n'en a aucun, mais que, comme on les tient enfermés dans une enceinte dont on est maître, on a le pouvoir de prendre et d'avoir celui que l'on voudra, toutes les fois qu'on le jugera à propos, et ensuite de le lâcher. Ce qu'on est libre de faire aussi souvent qu'on en aura la fantaisie.
Théétète.
Fort bien.
Socrate.
Maintenant, de même que nous avons supposé tantôt dans les âmes je ne sais quelle tablette de cire, faisons à présent dans chaque âme une espèce de colombier de toutes sortes d'oiseaux, ceux-ci vivant en troupe et séparés des autres, ceux-là rassemblés aussi, mais en petites bandes, d'autres solitaires et volant au hasard parmi les autres oiseaux.
Théétète.
Le colombier est fait, où en veux-tu venir?
Socrate.
Dans l'enfance, il faut le regarder comme vide, et au lieu d'oiseaux, supposer des sciences. Lors donc que, s'étant rendu possesseur d'une science, on l'a enfermé dans cette enceinte, on peut dire qu'on a appris ou trouvé la chose dont elle est la science, et que savoir est cela.
Théétète.
Soit.
Socrate.
Et si l'on veut aller à la chasse de quelqu'une de ces sciences, la prendre, la tenir, et la lâcher ensuite, vois de quels mots il faut se servir. Si ce sont les mêmes dont on se servait auparavant, lorsqu'on était en possession de ces sciences, ou d'autres mots. L'exemple suivant te fera mieux comprendre ce que je veux dire.
N'est-il pas un art que tu appelles arithmétique?
Théétète.
Oui.
Socrate. Figure-toi que c'est la chasse des sciences de tout nombre, soit pair, soit impair.
Théétète.
Je me le figure.
Socrate.
Par cet art, on a dans sa main les sciences des nombres, et on les met, si l'on veut, entre les mains d'autrui.
Théétète.
Oui.
Socrate.
Mettre ces sciences en d'autres mains, c'est ce que nous appelons enseigner. Les recevoir, c'est apprendre, et les avoir, parce qu'on les possède dans le colombier en question, voilà ce qui se nomme savoir.
Théétète.
Eh bien,
Socrate.
Sois attentif à ce qui suit. Le parfait arithméticien, ne sait-il pas tous les nombres, puisque les sciences de tous les nombres sont dans son âme?
Théétète.
Assurément.
Socrate.
Cet homme ne calcule-t-il pas quelquefois en lui-même les nombres qui sont dans sa tête, ou certains objets extérieurs de nature à être comptés?
Théétète.
Sans contredit.
Socrate.
Calculer, est-ce autre chose, selon nous, qu'examiner quelle est la quantité d'un nombre?
Théétète.
C'est cela même?
Socrate.
Il semble donc examiner ce qu'il sait comme s'il ne le savait pas. Lui, que nous avons dit savoir tous les nombres. Tu entends sans doute proposer quelquefois des difficultés de cette espèce.
Théétète.
Oui.
Socrate.
Or, pour revenir à notre comparaison de la possession et de la chasse des pigeons, nous dirons que cette chasse est de deux sortes. l'une avant de posséder, dans la vue même de posséder, l'autre quand déjà l'on possède, pour prendre et pour avoir en ses mains ce qu'on possédait depuis longtemps. De même, pour les choses dont on a acquis la science depuis longtemps, et qu'on sait, pour les avoir apprises, on peut les rapprendre de nouveau et en ressaisir la science, dont on était déjà en possession, mais qu'on n'avait pas présente à la pensée. Tais-tête, à merveille. Socrate. C'est pour cela que tout à l'heure, je demandais de quel terme nous nous servirions quand un arithméticien se dispose à calculer ou un grammairien à lire. Dira-t-on que, sachant l'arithmétique ou la grammaire, il va de rechef apprendre ce qu'il sait ? Tais-tête. Cela serait absurde, Socrate. Socrate. Mais dirons-nous qu'il va lire ou compter ce qu'il ne sait pas, après avoir accordé à l'un la science de toutes les lettres et à l'autre celle de tous les nombres ? Tais-tête. Cela n'est pas moins absurde. Socrate. Veux-tu que nous disions qu'il nous importe peu de quel nom on se servira pour exprimer ce qu'on entend par savoir et apprendre ? Mais qu'ayant établi qu'autre chose est de posséder une science et autre chose de l'avoir, nous soutenons qu'il est impossible qu'on ne possède point ce qu'on possède et que par conséquent, on sait toujours ce qu'on sait. Que cependant, il se peut faire que, sur cela même, on juge faux, parce qu'il serait possible qu'on eût pris une fausse science au lieu de la véritable, lorsque, en faisant la chasse à quelqu'une des sciences que l'on possède, elles se confondent. On se méprend et on saisit à la volée l'une pour l'autre. Ainsi, par exemple, quand on croit qu'onze est la même chose que douze, on prend la science d'onze pour celle de douze, comme si on prenait une tourterelle pour un pigeon. Tais-tête. Cette explication paraît vraisemblable. Socrate. Mais si on met la main sur celle qu'on veut prendre, alors on ne se trompe point, et on juge ce qui est. Et nous dirons que c'est là ce qui constitue un jugement vrai ou faux, et que les difficultés qui nous faisaient tant de peine tout à l'heure ne nous inquiètent plus. Peut-être seras-tu de mon avis, ou bien quel parti prendras-tu ? Tais-tête, je n'en prendrai pas d'autre. Socrate, nous voilà en effet heureusement débarrassés de l'objection qu'on ne sait point ce que l'on sait. Puisqu'on possède toujours ce que l'on possède, soit qu'on se méprenne ou non sur quelque objet. Mais j'entrevois à présent un inconvénient plus fâcheux encore. Tais-tête, quel est-il ? Socrate, si c'est la méprise en fait de science qui fait juger faux. Tais-tête, comment cela ? Socrate, d'abord, en se qu'ayant la science d'une chose, on l'ignorerait, non pas par ignorance, mais à cause même de la science que l'on possède. Ensuite, en ce qu'on jugerait que cette chose est une autre, et une autre, celle-là. Or, n'est-ce pas une grande absurdité que l'âme possède en soi la science et que cependant, elle ne connaisse rien et confonde tout ? En effet, rien n'empêche à ce compte que l'ignorance ne nous fasse connaître et que l'aveuglement ne nous fasse voir. S'il est vrai que la science nous fait ignorer. Tais-tête. Peut-être, Socrate, avons-nous eu tort de ne supposer que des sciences à la place des oiseaux ? Nous eussions dû aussi supposer des ignorances voltigeant dans l'âme avec elles, de façon que le chasseur, prenant tantôt une science et tantôt une ignorance sur le même objet, jugerait faux par l'ignorance et vrai par la science. Socrate. Il est difficile, Tais-tête, de te refuser des éloges. Néanmoins, examine de nouveau ce que tu viens de dire. Supposons que la chose soit ainsi. Celui qui prendra une ignorance jugera faux selon toi. N'est-ce pas ?
Tête. Oui.
Socrate.
Mais il ne s'imaginera pas sans doute qu'il juge faux.
Tête.
Cela se pourrait-il ?
Socrate. Au contraire,
il croira juger vrai
et voudra passer pour bien savoir ce que réellement il ignore.
Tête.
Assurément.
Socrate.
Il s'imaginera donc avoir pris à la chasse une science et non pas une ignorance.
Tête.
Je n'en doute pas.
Socrate.
Ainsi, après un long circuit, nous voilà retombés dans notre premier embarras. Car ce même critique ne manquera pas de nous dire, avec un rire moqueur, « Expliquez-moi donc, mes amis, comment il se peut que, connaissant l'une et l'autre, et la science et l'ignorance, on se figure qu'une science qu'on sait est une autre qu'on sait aussi ? Ou comment, ne connaissant ni l'une ni l'autre, on peut croire qu'une science qu'on ne sait point est une autre qu'on ne sait pas non plus ? Ou bien, prendra-t-on celle qu'on ne sait point pour celle qu'on sait ? Ou me direz-vous encore qu'il y a des sciences de science et d'ignorance, et que celui qui les possède, les tenant enfermés dans d'autres colombiers ridicules, ou les ayant gravés sur d'autres tablettes de cire, les sait pendant tout le temps qu'il en est possesseur, quand bien même elle ne serait point présente à son esprit ? De cette sorte, vous serez contraint de parcourir 1000 fois le même cercle, sans avancer jamais.
Que répondrons-nous à cela, Théétète ?
Théétète. En vérité, Socrate, je n'y saurais que dire.
Socrate.
Ces difficultés, mon enfant, ne sont-elles pas pour nous un reproche bien fondé et un avertissement que nous avons eu tort de laisser aller la science pour chercher à découvrir auparavant ce que c'est que le faux jugement, et qu'il est impossible de connaître celui-ci si l'on ne connaît d'abord suffisamment la science et en quoi elle consiste.
Tête.
Il faut bien maintenant que j'en convienne, Socrate.
Socrate.
Comment donc définira-t-on de nouveau la science ? Car sans doute nous ne renoncerons pas encore à la chercher.
Tête.
Non, certainement, à moins que tu ne t'y refuses toi-même.
Socrate.
Ah, dis-moi de quelle manière nous la définirons, sans nous mettre dans le cas de nous contredire.
Tête.
Comme nous avons déjà essayé de le faire, Socrate, car il ne se présente rien autre chose à mon esprit.
Socrate.
Que veux-tu dire ?
Tête.
Que le jugement vrai est la science. Le jugement vrai n'est sujet à aucune erreur. Et tous les effets qui en résultent sont beaux et bons,
Socrate.
Celui qui sert de guide dans le passage d'une rivière, Tête, dit que l'eau fera bien voir elle-même combien elle est profonde. De même, si nous entrons plus avant dans cette recherche, peut-être que les obstacles qui se présenteront nous découvriront ce que nous voulons savoir, au lieu que, si nous en restons là, rien ne pourra s'éclaircir.
Tête.
Tu as raison. Allons donc et examinons.
Socrate.
La chose ne demande pas un long examen. Un art tout entier prouve déjà que la science n'est pas là.
Tête.
Comment et quel est cet art ?
Socrate.
L'art des hommes les plus renommés pour leur lumière, ceux qu'on appelle orateurs et gens de loi. En effet, tout leur talent consiste à persuader, non par voie d'enseignement, mais en inspirant à leurs auditeurs le jugement qui leur convient. Ou bien, penses-tu qu'ils soient des maîtres assez habiles pour pouvoir, tandis qu'un peu d'eau s'écoule, instruire suffisamment de la vérité de certains faits, des hommes qui n'y étaient pas présents, soit qu'il s'agisse d'un vol d'argent ou de quelque autre violence?
Tête.
Nullement. Je crois qu'ils ne peuvent que persuader.
Socrate. Persuader quelqu'un, n'est-ce point le faire juger d'une certaine manière?
Théétète. Oui.